Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dans ce magazine, le portrait robot du bon évêque, selon le pape François. Le Saint-Père a dénoncé ce jeudi le scandale que constituent les évêques d'aéroport qui, au lieu de rester près de leurs fidèles, passent leur temps en voyage, ainsi que la psychologie de prince de certains d'entre eux, compte rendu dès le début de cette émission. Dans ce magazine également, le mage de la ville de Paris à l'un de ses citoyens les plus connus, le cardinal Jean-Marie Lustiger. Son nom sera associé au Petit Pont. Nous parlerons par ailleurs de l'importante visite du cardinal Scola en Serbie, un pas de plus vers le rapprochement avec l'orthodoxie. Vous entendrez également Monseigneur Fisichella qui prépare des journées consacrées aux catéchistes. Mais sachez tout d'abord que la Civiltà Cattolica, la revue des jésuites italiens, publie une longue interview du pape François qui sort simultanément dans 16 autres revues de jésuites, notamment en français, dans Études. Elle a été réalisée au mois d'août à la résidence Sainte-Marthe par le directeur de la Civiltà Cattolica, le père Spadaro. Le pape Bergoglio y brosse un portrait robot de lui-même, y compris en ce qui concerne ses goûts artistiques et culturels. Premier pape jésuite de l'histoire, il donne son avis sur la Compagnie de Jésus, analyse le rôle de l'Église aujourd'hui, énonce ses priorités pastorales et aborde même les questions que la société et l'anthropologie contemporaine posent à l'annonce de l'Évangile, comme l'homosexualité et la situation des divorcés remariés. Je vous invite à retrouver le long communiqué de presse de la Civiltà Cattolica sur notre page internet www.radiovaticana.va et l'intégralité de l'interview dans la revue Études. Le pape François a une nouvelle fois prié pour la paix ce jeudi matin. Écoutez.
Pace per la Siria, pace per il Medio Oriente, pace per il mondo.
Paix pour la Syrie, paix pour le Moyen-Orient, paix pour le monde. Le Saint-Père recevait un groupe d'évêques récemment nommés. Parmi eux se trouvaient deux évêques syriens. Ces nouveaux évêques latins et orientaux, image de la richesse et de la diversité de l'Église, sont venus à Rome pour participer au cours annuel de formation et d'information organisé à leur intention par deux dicastères du Vatican, la Congrégation pour les évêques et la Congrégation pour les Églises orientales. Et c'est un discours long et ferme que le pape François leur a adressé pour leur rappeler les traits essentiels qui doivent caractériser le ministère épiscopal. Olivier Bonnel.
Le style est celui auquel le pontife argentin nous a habitués, simple, imagé, jalonné de formules efficaces. Mais le ton du discours était particulièrement ferme ce jeudi matin. Car le ministère épiscopal est exigeant parce que les évêques ont une lourde responsabilité et des devoirs précis. Ils doivent ainsi développer un esprit de collégialité et de communion entre eux et avec l'évêque de Rome, être des bâtisseurs d'unité dans l'Église. Mais surtout, ils doivent marcher aux côtés du troupeau qui leur a été confié et rester auprès de lui. Cette proximité, ils la doivent tout d'abord à leur clergé. Le pape encourage les évêques à être attentifs aux nécessités humaines de leurs prêtres, surtout dans les moments délicats et importants de leur ministère et de leur vie, à passer du temps avec eux, à les recevoir quand ils le demandent. Ne laissez jamais, a-t-il lancé, un appel téléphonique sans réponse. Cette proximité constante, les évêques la doivent ensuite à leurs fidèles. « Ne vous enfermez pas, leur demande le pape, descendez au milieu de vos fidèles, apprenez à connaître votre territoire en profondeur. » Et il va plus loin en les invitant avec insistance à ne pas changer fréquemment de diocèse, à ne pas rechercher des mutations ou des promotions. Pour le pape François, la stabilité est essentielle pour un bon gouvernement pastoral. Je vous demande s'il vous plaît de rester auprès de votre peuple, rester et éviter le scandale de devenir des évêques d'aéroport. Quant à leur psychologie, ils recommandent l'humilité, l'austérité, la discrétion, le témoignage personnel concret, le sens de l'humour. Le pape fustige au contraire l'ambition et le carriérisme. En clair, les pasteurs ne sont pas des princes.
L'audience s'est déroulée en présence de deux cardinaux de la Curie, Marc Ouellet et Leonardo Sandri, ainsi que de l'archevêque de Manille, le cardinal Louis Taglé. Un nouveau rendez-vous sur l'agenda diplomatique du pape François, bien chargé en ce mois de septembre. Le Saint-Père a reçu ce jeudi matin le Premier ministre lituanien, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le chef du gouvernement lituanien s'est s'est également entretenu avec le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Monberti. Le Saint-Siège et la Lituanie entretiennent de bons rapports, a-t-on relevé. Depuis des siècles, l'Église catholique offre sa contribution à la société lituanienne dans le domaine éducatif et social, et par son engagement en faveur de la famille et de la formation des consciences aux valeurs spirituelles. Les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité de garantir la paix au Moyen-Orient et en particulier en Syrie, en privilégiant une solution politique de la crise par le dialogue et la négociation. Mais le pape François pense aussi au Mexique où les intempéries meurtrières de ces derniers jours ont fait de nombreux morts et disparus. Il a adressé un message au président de la conférence des évêques mexicains pour lui faire part de sa profonde peine et lui demander de transmettre ses condoléances aux familles des victimes. Le Saint-Père prie pour les défunts et se dit proche spirituellement des blessés et des sinistrés. Il demande à Dieu de réconforter tous ceux qui sont touchés par les inondations et lance un appel à la solidarité fraternelle. Les 3 millions de catéchistes du monde seront à l'honneur à la fin du mois au Vatican. Des journées leur seront consacrées dans le cadre de l'année de la foi les 28 et 29 septembre, des journées précédées d'un congrès international sur la catéchèse. Une application concernant le catéchisme de l'Église catholique sera également présentée à cette occasion. Cette initiative a été présentée ce jeudi dans la salle de presse du Saint-Siège par le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Mgr Ino Fisichella. On l'écoute au micro d'Antonino Gallofaro.
La catéchèse, ça fait une étape dans le chemin, le très long chemin de la nouvelle évangélisation. C'était toujours pareil dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire la catéchèse appelée à mettre ensemble, à conjuguer ensemble la compréhension toujours plus profonde du mystère à l'intérieur d'un style de vie que nous appelle à être cohérente avec notre témoignage.
Vous parlez de 3 millions de catéchistes. Ils ont des défis à relever. Lesquels sont-ils ? Vous parlez de l'inculturation de la foi.
Alors, il y a un mouvement très intéressant qui est commencé avec le Vatican II, c'est-à-dire la capacité d'avoir des catéchismes qui sont liés à la culture des différentes églises. Mais on ne peut pas oublier que cette inculturation est liée aussi à le catéchisme de l'Église catholique, là où l'Église a mis ensemble tous ceux qui constituent le patrimoine de culturel, spirituel et des traditions de l'histoire de l'Église. Alors on va mettre ensemble l'unité de l'Église avec le catéchisme de l'Église catholique, avec comme référence pour les autres catéchismes qui viennent à être créés et réalisés par les différentes églises particulières.
Dernière question, c'est sur l'app. Est-ce que le but, c'est aussi d'élargir le catéchisme, par exemple, aux parents des enfants ?
L'app sur le catéchisme de l'Église catholique et son compendium, c'est seulement pour montrer qu'on a la possibilité d'entrer dans les nouveaux langages qu'on a et d'avoir un instrument qui est pour tout le monde qui désire.
Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. À noter que la Congrégation pour l'éducation catholique a organisé cette semaine à Rome un séminaire d'études sur l'importance du catéchisme de l'Église catholique dans l'enseignement de la théologie dans les universités catholiques. Rome accueille également ces jours-ci un congrès international sur les droits de la famille et les défis du monde contemporain. Cette conférence organisée par le Conseil pontifical pour la famille sera présentée ce vendredi en conférence de presse au Vatican. Le pape François a adressé un message personnel à Ahmed Al-Tayeb, grand imam de l'université Al-Azhar du Caire, l'institution la plus prestigieuse de l'islam sunnite. Selon le texte rendu public par l'université, le Saint-Père exprime son estime et son respect pour l'islam et les musulmans et soutient l'engagement en faveur de la compréhension entre chrétiens et musulmans dans le monde afin de construire la paix et la justice. C'est le nonce apostolique en Égypte, Mgr Jean-Paul Gobel, qui a remis le message du pape mardi au grand imam. Le dialogue entre le Saint-Siège et Al-Azhar est interrompu depuis l'appel lancé par Benoît XVI en 2011 après l'attentat contre la cathédrale copte d'Alexandrie. Le pape émérite avait demandé aux autorités compétentes de protéger les chrétiens en Égypte et au Moyen-Orient. Une ingérence occidentale indue, selon Al-Azhar. Selon le secrétaire du patriarcat d'Alexandrie des Coptes catholiques interrogé par l'agence Vatican Fides, la lettre du pape François contribuera sûrement avec le temps à surmonter les incompréhensions et à relancer le dialogue bilatéral. Hommage de la ville de Paris à l'un de ses citoyens les plus connus, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de la capitale française de 1981 à 2005. La mairie a décidé, en accord avec l'archidiocèse, d'associer son nom au petit pont qui relie le parvis de Notre-Dame à la rive gauche. L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi après-midi en présence du cardinal Vintrois, actuel archevêque de Paris, et de Bertrand Delanoë, maire de Paris. Xavier Sartre.
C'est un des ponts les plus anciens de Paris, lancé entre Notre-Dame et la rive gauche. Le petit pont rappellera dorénavant la mémoire du cardinal Lustiger, l'un des archevêques de la capitale française les plus emblématiques du XXe siècle, symbole à lui seul des drames de son époque. Mais ce n'est pas uniquement à cause de son histoire personnelle que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a voulu lui rendre hommage.
J'aime bien que Paris sache dire merci. Merci à toutes les personnalités les plus diverses qui ont fait grandir Paris. J'ai bien connu le cardinal Lustiger, j'ai beaucoup échangé avec lui. Et c'est un homme qui a, par son intelligence, son engagement et sa générosité, qui a vraiment illustré les valeurs de Paris, qui sont des valeurs de l'intelligence, de l'amour et aussi de la dignité humaine. Et donc, effectivement, je tenais à donner son nom à un pont de Paris, beau et modeste comme lui, et qui se trouve à côté du parvis Notre-Dame. Vous avez oublié de dire que j'ai donné, il y a quelques années, à ce parvis, le nom de Jean-Paul II. Et donc, je trouve qu'il y a une belle symbolique. Notre-Dame, le parvis Notre-Dame, Jean-Paul II, le petit pont, cardinal Lustiger. Voilà, c'est Paris. Paris est divers. Paris a bénéficié de grandes intelligences qui ont des croyances différentes, qui ont des itinéraires différents, mais qui, toutes et tous, donnent de la puissance morale et intellectuelle à Paris.
Le cardinal Vintrois, proche collaborateur du cardinal Lustiger pendant de nombreuses années au sein de l'archidiocèse et son successeur, ne pouvait évidemment qu'approuver cette initiative de la mairie en faveur d'un homme encore très présent dans le cœur des Parisiens.
Il y a beaucoup de Parisiens pour qui c'est une figure très forte, qui a marqué par sa présence, par la force de sa personnalité, par la densité de ses interventions et par sa capacité de relation avec différents milieux, comme les milieux universitaires, les milieux économiques, les milieux politiques, et puis sa proximité avec tout le monde. Lui-même, par son attitude et sa manière d'aller à la rencontre des gens et d'entrer en relation avec eux, surmontait les classifications ordinaires.
Et qui mieux qu'un pont pouvait représenter cette dimension que beaucoup de tous bords reconnaissaient au cardinal Lustiger, un passeur entre religions, un lien entre croyants et non-croyants, un homme d'église, symbole d'ouverture et d'exigence.
La diplomatie du Saint-Siège, sur de nombreux fronts, elle s'efforce ainsi de resserrer ses liens avec le Vietnam. Une délégation du Bureau des Affaires religieuses du Vietnam, conduite par le secrétaire d'État aux Affaires intérieures, effectue jusqu'à vendredi une visite à Rome pour y mener des négociations. Mercredi, à l'audience générale, le pape François lui a souhaité la bienvenue. Selon un communiqué de l'agence vietnamienne d'information relancée par Église d'Asie, cette délégation, composée de 7 membres, a rencontré le sous-secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le sous-secrétaire pour les relations avec les États afin de faire le point sur l'évolution des relations bilatérales et aborder les points qui préoccupent les deux parties. Envoyé de marque pour événements d'importance, le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, est l'envoyé spécial du pape François en Serbie à l'occasion de la célébration des 1700 ans de l'édit de Milan, un événement qui aura lieu du 20 au 22 septembre dans la ville où vit le jour l'empereur Constantin, auteur de l'édit qui permit le libre exercice de la religion chrétienne dans l'Empire romain. L'un des moments forts du voyage sera la rencontre ce vendredi à Belgrade entre le cardinal Scola et le patriarche de l'église orthodoxe serbe Irénée, élu en 2010 comme successeur au patriarche Pavle, à la tête d'une église qui compte 11 millions de fidèles en Serbie et dans les pays de l'ex-Yougoslavie, mais aussi aux États-Unis, en Australie et en Europe occidentale. Où en sont les rapports entre l'église catholique et sa sœur orthodoxe serbe? Élément de réponse avec Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans.
Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Les relations entre le Vatican et la Serbie ont bien sûr été tendues dans les années 90, notamment au moment de l'accession l'annexion de la Croatie et de la Slovénie à l'indépendance en 1991. Par contre, pour le coup, sur le plan intérieur à la Serbie, les relations entre les deux églises n'ont jamais été franchement mauvaises. Il y a à Belgrade un archevêque catholique, c'est Mgr Hočevar, qui est lui-même d'origine slovène, mais qui est archevêque de Belgrade depuis une bonne dizaine d'années, puisqu'en Serbie, il y a une communauté catholique qui est certes minoritaire, mais qui n'est pas totalement négligeable. C'est principalement en Voïvodine, dans la province septentrionale du pays, que vivent les communautés catholiques. Mais les relations entre les deux églises ont toujours été fondamentalement correctes. La conférence épiscopale de Serbie a des relations normales, je dirais, avec l'église orthodoxe serbe. Ces derniers temps, un débat assez vif a surgi sur les commémorations de la proclamation de l'édit de Milan en 313, puisque la Serbie veut organiser de grandes cérémonies autour de cet édit et du fait que Constantin, l'empereur romain Constantin, était originaire de Serbie. On avait même parlé il y a quelques années d'une possible invitation du pape. En réalité, là, rien ne s'est fait et rien ne se fera dans cette dimension-là. À cause, alors l'Église orthodoxe a refusé d'inviter la hiérarchie de l'Église catholique en estimant que cette Église ne s'était pas assez dissociée du passé, notamment en Croatie, et les questions tournent bien sûr autour de la figure très controversée d'Alojzije Stepinac, qui était archevêque et cardinal de Zagreb durant la Seconde Guerre mondiale, et qui est une figure qui a été béatifiée par Jean-Paul II, mais qui reste une figure très controversée pour les historiens. Pour l'Église serbe, il faudrait que l'Église catholique se dissocie véritablement de ce personnage en reconnaissant son rôle dans la collaboration, ce dont il n'est bien sûr pas question pour l'Église catholique croate.
Concrètement, sur quoi porte le dialogue entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe serbe ?
Il y a à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Serbie, ce qu'on pourrait appeler un dialogue œcuménique à minima, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres, beaucoup plus au niveau du sommet de la hiérarchie qu'à la base, sauf peut-être dans certains endroits de Voïvodine où là il y a des groupes de croyants, tant orthodoxes que catholiques, qui peuvent se retrouver. Mais ce sont des initiatives plutôt très minoritaires, très limitées, qui se déroulent d'ailleurs généralement de façon très indépendante des hiérarchies des deux églises. Pour le reste, au niveau formel, on est dans des bonnes relations, mais justement assez formelles.
Où en est l'Église orthodoxe serbe après la période assez difficile qu'elle a traversée ces dernières années? On a vu, entre autres, qu'elle a été traversée en son sein par de très violentes et très fortes divisions.
Il y a eu des conflits particuliers liés au Kosovo et autour de la personnalité de l'ancien évêque de Raška et de Prizren, donc diocèse qui est celui du Kosovo. Cet ancien évêque, Mgr Artemi, a été démis de sa charge et excommunié pour non-reconnaissance de l'autorité hiérarchique de l'Église. Le schisme de Mgr Artemi, ceci étant, est resté très limité. Il n'a pas entraîné de citelle avec lui, ou très très peu. Pour le reste, la grosse question pour l'Église orthodoxe serbe, c'est de redéfinir sa place dans la société et ses relations avec les autorités politiques. Il est certain que cette Église a joué un rôle important dans la remise sur le devant de la scène du nationalisme dans les années 90, même si cette Église a toujours essayé de conserver son indépendance par rapport au pouvoir politique, notamment à l'époque de Milošević. Je dirais paradoxalement, c'est ensuite, dans les années 2000, où l'Église, notamment lorsque Vojislav Koštunica était Premier ministre, a véritablement pensé pouvoir redéfinir des relations étroites, peut-être trop étroites avec l'État. Koštunica a perdu le pouvoir et l'Église s'est retrouvée en quelque sorte un petit peu en porte-à-faux. Aujourd'hui, les vraies questions qui se posent non seulement à l'Église mais à la société serbe, c'est celle de la place sociale que peut occuper l'Église dans un pays qui demeure un pays multiconfessionnel avec des catholiques, mais également des protestants et aussi des musulmans.
Est-ce que justement ces caractéristiques sont favorables à un dialogue œcuménique plus profond, plus sérieux, entre guillemets, avec l'Église catholique ?
Les églises peuvent faire front commun sur certains dossiers, notamment pour exiger, par exemple, plus d'enseignement religieux à l'école ou une visibilité plus forte des religions. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, c'est amorcer une réflexion théologique sur la réalité de cette société serbe, qui est une société en réalité très diversifiée, culturellement, spirituellement variée, et ouvrir une vraie réflexion sur ce que les églises, mais également la communauté musulmane peuvent apporter à cette société. Mais là, je dirais qu'on n'en est pas encore véritablement à ce niveau-là. C'est aussi la réflexion autour des relations en général entre les communautés religieuses et l'État, où la réflexion doit, je dirais, être reprise un petit peu à partir de zéro, après non seulement l'expérience communiste, mais en plus l'expérience particulière du nationalisme et des guerres des années 90.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver sur internet radiovaticana.va et sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.